Bonjour, bienvenue à la table ronde consacrée à le temps et la photographie. La photographie étant quand même l'instantané, le temps figé. Nous avons Antoine Mottier.
Bonjour.
Ici présent, qui vient de publier un ouvrage intitulé Freaks, recueil de photographies avec des textes. Nous avons Sarah Doc, autrice. Et nous avons Sylvie Denis, autrice également. Donc nous allons ensemble parler assez librement de la photographie parce que finalement c'est un sujet extrêmement vaste qui recouvre un certain nombre d'applications, d'esthétique, même on pourrait dire de médias, et puis le nombre de styles est gigantesque entre la photo, ce qu'on appelle la street photo, vraiment prise sur le vif, ou la photo retravaillée, retouchée énormément par les moyens numériques contemporains, photo noir et blanc, photo couleur, enfin bon, c'est un champ que l'on aurait pu croire finalement progressivement appelé à disparaître, et qui, en fait, non seulement est toujours d'actualité, mais même retourne vers certaines origines depuis quelques années avec de nouvelles, un nouvel attrait pour des techniques anciennes. Par exemple, typiquement, l'argentique n'est pas mort, loin de là, puisqu'il revient même plutôt à la mode. Alors, pour commencer, je vais faire un petit tour de table, à savoir, chacun votre tour, quelle est votre idée de la photographie, Sarah?
Je pourrais parler de plusieurs idées, de plusieurs expériences de la photographie. Ma première expérience de la photographie, c'était dans mon enfance. Un de mes parrains, Leroy Bibbs, qui était un Black Panther réfugié en France, était aussi photographe de jazz. Mais son travail était de jouer sur les lumières et donc de diffracter les images, d'avoir des traînées de lumière colorées sur des photos qui semblaient être en noir et blanc.
Sylvie? Oui.
La photographie, tu es dur.
Je suis payé pour ça.
Je fais partie de ces gens pour qui la photo a commencé par de manière parfaitement ordinaire et banale, avec des photos, avec les photos de famille et ce genre de choses, dans un environnement où la photo n'était pas considérée et n'était pas sue comme un art et comme quelque chose de construit, d'élaboré avec une histoire. C'est quelque chose que j'ai apprise plus tard par moi-même essentiellement, parce que malheureusement, à l'époque où j'étais essentiellement au collège et au lycée, je ne me souviens pas qu'on m'ait parlé d'histoire de la photo une seule fois dans ma vie. Donc, mais j'étais effectivement de toute façon ravie de découvrir ça. Mais c'était absolument pas un donné. Je pense que je vais arrêter là. Ça n'est pas un donné, voilà.
Bonjour,
Antoine.
La photographie, c'est quoi pour moi? C'est une de mes professions, mais avant tout, c'est ma grande passion. J'ai dû commencer, je crois que j'avais l'âge de 6 ans, sur un voyage scolaire où mon père m'avait donné une petite boîte à savon pour faire des petites photos de famille, de paysages, enfin de copains. Et puis c'est un truc que j'ai redécouvert après mes études. J'ai fait des études totalement autres, de littérature, pas quelque chose de forcément très artistique, très, très personnel. Et je crois que c'est le jour de mes 20 ans, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter pour mon anniversaire un réflexe que j'ai utilisé comme ça pour me faire plaisir, mais j'avais ne serait-ce qu'aucune idée de savoir comment il fonctionnait. Ça a pris à peu près 3 ou 4 ans pour que je me dise, oui, je vais en faire quelque chose de plus personnel, d'approfondir ce boîtier qui est un peu une grosse machine technologique dont je ne sais pas me servir. Donc du coup, j'ai pris 2 jours de formation comme ça sur un festival. Puis on m'a dit, tu vas prendre des photos de gens qui font de la musique. Tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et puis au fur et à mesure, En captant vraiment des instantanés de concert, des choses qui sont vraiment du temps qu'on fige, un spectacle vivant en termes de photographie, c'est peut-être la chose la plus dure que vous ayez à apprendre. Parce que c'est quelque chose, la temporalité d'un spectacle pour un photographe, c'est trois chansons. Au-delà de ces trois chansons, vous ne pouvez plus prendre de photos, généralement. Bon, maintenant, on peut prendre des photos avec son smartphone. Il y a des jolis smartphones qui font des jolies photos. Mais à l'époque, trois photos, c'était tout. Et il fallait rendre une esthétique et un instantané, justement, de ce moment. Et c'est très compliqué avec les lumières, les musiciens qui bougent. On n'est pas devant quelqu'un qui va prendre la pose pour vous, qui va communiquer avec vous, qui communique avec le public. Et c'est à vous de bouger pour... de se rapprocher, de trouver le bon angle pour le faire. Et puis la photo de concert, ça m'a totalement... j'ai été totalement dégoûté de la photo de concert, en fait. J'ai tout mis de côté, parce que j'avais toujours les mêmes cadres, j'avais un pied de micro, une guitare, une basse, et peut-être un batteur au fond, si on arrivait à avoir assez de profondeur de champ pour l'apercevoir. Et j'ai décidé de prendre mon temps depuis en photographie.
Le truc en photo de spectacle en général, j'en ai fait pas mal aussi. Là, je me permets, je suis désolé, je suis plus modérateur. Mais j'interviens quand même parce que j'en ai fait beaucoup. Le truc, c'est que généralement, je demandais à être là aux répétitions et aux... Parce que là, du coup, bon, ils acceptent votre présence, on monte sur scène, on prend n'importe quel angle et on n'est pas forcément, du point de vue, comme disait Méliès, du spectateur du troisième rang, c'est-à-dire en fait frontal, à être obligé avec... Bon, un téléobjectif plus ou moins puissant, d'isoler des parties, mais ça c'est un vrai problème. Bon, en fait, il faut vraiment, par contre, rentrer dans le système, quoi. Ceci dit, il y avait un point intéressant, c'était la question de l'enseignement, en tout cas au moins de l'initiation à la photographie dont parlait Sylvie. C'est vrai que à l'école, on a une initiation à l'art graphique. Qui vaut ce qui vaut, là-dessus, je serais très évasif parce que je suis poli. Une initiation musicale sur laquelle je serais également très très poli. Enfin, on a tous des grands souvenirs de la flûte à bec en plastique. Mais nous n'avons pas finalement, enfin à ma connaissance, peut-être que ça a changé vu que je suis d'un âge canonique.
Moi j'ai eu.
Mais voilà, oui.
Ah,
oui.
Moi j'ai eu.
Mais toi, t'es belge aussi.
Non, j'étais en France.
J'ai fait ses études en France.
Ah, oui. Au lycée de Sèvres, dans les cours d'art plastique. On avait une initiation à la photo. En tout cas, on a travaillé avec des sténopées.
En plus,
on a travaillé vraiment avec
même
la...
pas l'argent pour acheter des objectifs.
Non, l'intérêt, c'était de fabriquer la boîte noire au départ et d'être vraiment dans tout le processus de la fabrication, de comprendre comment ça fonctionnait avant de chercher l'image.
Mais généralement, il n'y a pas eu de formation. Or, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, avec effectivement les moyens contemporains, notamment n'importe quel téléphone a un appareil photo, limite, s'il n'y en a pas un maintenant sur les frigos, tout le monde peut faire de la photo. Mais finalement, sur quelle base s'appuie-t-on pour savoir comment, qu'est-ce que c'est en fait finalement qu'une photo réussie ? Excellente question à laquelle vous allez devoir répondre. Vous n'avez pas 3 heures.
Oui, 3 minutes peut-être. Une bonne photo pour moi. J'ai donné quelques cours de photographie dans des ateliers. C'est quelque chose qui revient beaucoup à la mode. Enfin, c'est pas un effet de mode, mais c'est quelque chose qui se démocratise. Par exemple, là où je vis, il y a plusieurs ateliers. Enfin, les MJC, les différentes structures de la ville ont quasiment toutes un atelier photographique où il y a des associations qui se créent, qui font ça. Le principe d'une bonne photo, c'est déjà de se faire plaisir. Enfin, d'une bonne pratique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique photographique, que vous ayez un smartphone ou que vous ayez un réflexe. Le principe, c'est de se faire plaisir avec l'objet qu'on a et d'essayer à minimal de comprendre. Par exemple, si vous prenez des photos de vacances que vous mettez sur Instagram, moi, je trouve ça une pratique génial d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on peut modifier ses photos, on peut essayer, on peut expérimenter. Il y a des comptes Instagram qui sont remplis d'assiettes de nourriture ou de photos de vacances en bord de mer ou de selfies. Mais quand on a une pratique photographique Par exemple, sur des smartphones, ça vaut autant pour moi qu'une pratique avec un réflexe dernier cri dont l'objectif coûtera à peu près un bras, le flash coûtera à peu près un rein et accessoirement vous coûtera votre dos parce que ça pèse quand même à peu près 7 à 8 kilos de matériel à emmener. Et je compte ça juste pour la pratique photographique plus ou moins courante d'un photoreporter. Mais c'est surtout, par exemple, avec des réflexes, c'est se faire plaisir et savoir ce qu'on veut en faire. Ça ne sert à rien d'acheter une super belle machine de course si c'est pour être au final sur le mode paysage et juste appuyer sur le bouton. C'est gâché. Les appareils photos sont de grandes usines à gaz, voire même, pour moi, des objets de SF. Parce qu'on peut modifier tout, on peut tout modifier, tout faire avec ça. Et on peut même se retrouver sur les logiciels de traitement derrière sur un monde à la Blade Runner. C'est-à-dire que je vais prendre une photo, je vais rajouter de la texture, je vais changer le cadrage, je vais tourner tel truc. On va arriver sur quelque chose de totalement improbable.
Pour moi, une bonne photo, c'est un regard. C'est le regard du photographe, c'est le regard qui va capter quelque chose et qui va permettre d'être le miroir de ce regard. Et ça donne des choses très intéressantes parce que c'est systématiquement un point de vue, c'est la manière dont on a appréhendé la chose. Il y a eu une expérience comme ça où une personne devait être photographiée par 5 photographes différents. Et à chacun de ces photographes, les personnes qui se sont occupées de ce projet ont raconté une autre histoire sur leur modèle. Pour l'un, c'était un ancien tolard. Pour l'autre, c'était un magnat de la drogue. Pour le troisième, c'était un parrain de la mafia. Pour un autre, c'était un grand financier. Et pour le dernier, c'était un cuisinier. Et quand on voit le résultat, la personne qui est sur les différentes photos n'est pas la même. C'est pour ça que je dis c'est un regard. C'est un point de vue, c'est devenir le miroir de l'image qu'on a, de ce qu'on a en face de soi.
Ça, c'est de toute façon la qualité des grands portraitistes photos, je pense à Philippe Halsmann ou Youssouf Karch, qui savent exactement, qui prennent du temps, en fait, avec leur modèle, de manière à pouvoir trouver l'angle, l'expression et la lumière qui va finalement révéler, en une photo, en un emblème, révéler qui ils sont.
Oui, mais quand je dis que c'est un regard, ça peut être le regard de l'amateur lambda qui a su, à un moment donné, saisir, devenir le miroir de ce qu'il regardait, qui a su trouver la manière de le mettre en scène, d'une certaine manière.
Moi, je dirais que c'est la magie du Kairos, c'est le bon geste au bon moment, c'est le moment qui sauve ce qui disparaît, c'est-à-dire la réalité, le réel à chaque instant qui passe, et quelque chose magiquement le met sur une pellicule quand il y en a et le sauve. Et ça relève d'une magie absolument totale. Il y a un fantasme que j'ai, enfin une idée que j'ai depuis très longtemps, c'est de pouvoir faire une exposition en utilisant un balai et en découpant chaque instant et en mettant sur des murs chaque instant du balai pour qu'on puisse s'y promener. Ça, c'est une, si quelqu'un a envie de le faire, je vous donne l'idée, il n'y a pas de problème, parce que moi je suis trop feignante pour le faire. Les photos de balai m'ont toujours absolument fascinée parce que ça capture la danse, c'est le mouvement par essence, et ça capture le mouvement dans sa beauté quasi parfaite, et ça c'est une magie absolue pour moi.
Non, et puis, il y a le côté de l'instant décisif et surtout de la temporalité, justement, puisqu'on essaye de parler de temps et de photographie. Une photographie qui fonctionne, c'est une photographie qui, si on la prend en dehors de tout contexte de prise de vue, parlera à tout à chacun. D'où l'intérêt du portrait, par exemple, on donne des consignes. Pourtant, les 5 portraits, c'est un petit documentaire dont on parle avec Sarah, qui dure à peu près 15 minutes. Il faut savoir que tous les photographes sont briefés pendant à peu près 2 à 3 minutes par quelqu'un qui est acteur, qui est super sérieux et qui leur fait vraiment croire le background. Pour autant, si on regarde ces 5 photos, toutes ont une esthétique différente, puisqu'on généralement on bosse un portrait suivant l'esthétique qu'on a envie de lui donner et un certain contexte. Ça faudrait, par exemple, si vous prenez une photo de Libération et une photo du Monde et une photo du Figaro, ce n'est pas du tout la même iconographie, dans le sens où le traitement photographique qui sera appliqué ne sera pas le même. Vous prenez une photo, par exemple, de guerre, la photo de guerre n'aura pas, de reportage de guerre n'aura pas du tout la même esthétique que si vous faites un reportage en Inde sur les bas-fonds de l'Inde. Parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes champs d'application et vers les mêmes spectateurs. Pour autant, ce qui fonctionne dans un bon cliché, en dehors du côté technique, des 3/3, de choses purement factuelles qui s'apparentent à de la peinture, c'est le côté atemporel. Et le côté émotionnel qui en dégage. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose... C'est pas un entonnoir, en fait. On vous amène vers des émotions, mais qui seront libres d'interprétation. Et par exemple, Douaneau ou Ronis, quand ils font leur portrait, en dehors de tout contexte, expriment une palette d'émotions que tout à chacun peut s'approprier.
Il y a un autre point qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que, bon, je disais tout à l'heure que les téléphones disposaient désormais d'un appareil photo intégré, mais généralement, ils disposent aussi de la possibilité d'enregistrer du film. Bon, curieusement ou pas curieusement, la photo est très très largement privilégiée par rapport à l'enregistrement vidéo sur ces appareils. Alors, il y a évidemment les questions de contraintes techniques, par exemple, ça va quand même prendre plus de place sur le disque, et donc on va pas pouvoir enregistrer très longtemps. En plus, là, du coup, il y a nécessité de prendre un son et théoriquement de brancher un micro extérieur, sinon on a des problèmes de captation. Mais je pense qu'au-delà de ça, en fait, et au-delà aussi de la difficulté qu'il y a, qui est sous-jacente, qu'après les vidéos, il faut quand même les monter, le travail est loin d'être terminé à la prise de vue, la photo conserve un intérêt pour d'autres raisons. À vous la parole.
Oui, je pense que la photo reste abordable parce qu'elle fige un instant temporel qui est vraiment minuscule. La vidéo, ça se rapproche beaucoup plus du réel, c'est-à-dire qu'on peut filmer, certes, mais filmer quoi, comment, sous quel angle, et on arrive très vite à n'importe quoi. Et finalement, c'est pas intéressant. Et comme disait Sarah, il faut un regard, et c'est plus facile et c'est plus satisfaisant pour la personne qui le fait, de poser justement ce petit regard ponctuel de la photographie, que d'avoir votre téléphone et puis ça va bouger dans tous les sens et tout ce que vous aurez c'est des bouts de doigts et de mains et ça sera pas agréable en fait.
Puis il y a un côté culturel aussi dans nos sociétés d'Européens ou d'Américains, enfin de puissances développées qui connaissent la photographie depuis à peu près 200 ans pour grossir le trait. Le principe de la photo, à l'époque où c'est apparu, il y avait un côté magique et cérémonial. C'est-à-dire que les premières photos qu'on faisait, c'était du daguerreotype, c'était de la plaque de verre, mais c'était dans des conditions très particulières. C'était que pour les grandes occasions, voire des occasions tristes. Il faut savoir que en termes de photographie sur les daguerreotypes, par exemple, on faisait des photos mortuaires de famille, et le seul qui ça, est sur le seul,
j'en ai vu, c'est magnifique. Pour notre regard, je trouve ça terrifiant. Moi
je trouve ça magnifique.
Et le seul personnage qui reste fixe, parce qu'on est vraiment en prémisse de la photographie, les temps de pose sont très longs. Maintenant, on fait une photo, on appuie sur le bouton, on a le résultat tout de suite. Sur le daguerreotype ou la plaque de verre, on peut atteindre des temps de pose qui peuvent aller de 8 secondes à 8 minutes, grosso modo, suivant ce qu'on fait. Il faut savoir que le corps humain bouge beaucoup en 8 secondes. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais le temps, sur un temps de 8 secondes, j'ai le temps à peu près de voir 3 changements d'expression Sauf les morts. Et les seules personnes... les seules personnes qu'on voyait sur ces photos qui ne bougeaient pas étaient justement les morts.
Mais souvent, c'était des enfants.
Et souvent, c'était des enfants. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, on prenait des photos, mais c'était des tout petits formats. Il faut savoir que c'était à peine cette taille-là en termes globaux et qu'on se les mettait dans les portefeuilles, on les affichait, on gardait toujours le côté photo. C'est une pratique qui continue toujours d'avoir toujours des instantanés. C'est pas pour rien, par exemple, quand vous avez votre téléphone portable que vous enregistrez un contact, on vous propose directement de mettre une photo. Il y a une construction mentale qui se crée autour du souvenir par la photo. Moins par l'image, parce que ça, l'image qui bouge, parce que ça reste quand même un médium qui est quand même assez récent. Mais il y a tout un cérémonial autour de la photo. Et pour faire le lien avec un festival de SF, quand on regarde Blade Runner, le premier, que Descartes dit que que Tagreg et Descartes disent que les réplicants se construisent autour de photos, c'est exactement une mise en abîme de notre rapport à l'image, en fait. Le fait de fixer une image, de fixer ses proches ou de fixer un paysage sur une photo permet à la mémoire de se construire.
Mais la photo la plus bête, la plus utilitaire, la plus impersonnelle et que l'on demande de plus en plus à être impersonnelle, c'est la photo d'identité. Oui.
Tout à fait. Mais là, je vous rejoins en fait tous les deux. Il y a l'immédiateté, il y a le souvenir, mais il y a aussi la construction du souvenir. C'est-à-dire que avec des vidéos, on peut pas avoir une évolution. Ce sera beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose qui est une continuité. Ou par exemple, bêtement, on parle de photos de famille, les photos d'enfants. Les photos pour un album de famille où on va prendre régulièrement des photos d'un enfant au cours de son enfance, pendant qu'il grandit. Et la photo, à ce moment-là, donne une véritable impression de continuité, donne quelque chose où les images se répondent d'une certaine manière les unes aux autres. Ce qui serait beaucoup, beaucoup plus compliqué en vidéo, parce que réussir à avoir une certaine esthétique constante en vidéo, quand on n'a absolument aucune formation, c'est très difficile. On peut par contre, même sans une très bonne formation, dans les instantanés, avoir une certaine esthétique constante dans la fabrique du souvenir.
Néanmoins, bon, c'est vrai que l'aspect technique est clair. Il y a énormément de photographes, en fait, la majorité, qui estiment que de toute façon, le moment où l'on déclenche et où on enregistre l'image dans l'appareil, c'est vraiment la première étape. Mais qu'après, le développement et surtout le tirage, lorsqu'il était argentique, ou la dérotisation en numérique, plus les travails de réétalonnage, même par masque, dans la plupart des logiciels de traitement, ont une importance capitale. C'est-à-dire pour eux, c'est en gros, ça fait 60% de la photo, et on le sait déjà parce que du temps de l'argentique, en fait, les grands photographes avaient leur titreur attitré. Leur tireur attitré qui savait exactement ce que le photographe voulait comme type de ciel, quel type de rapport de contraste, etc. Alors là, par contre, on arrive quand même dans une obligation de mettre un peu la main dans le cambouis, parce que techniquement, que ce soit en analogique ou en numérique, il faut quand même passer une étape. Est-ce que... voilà, comment vous le sentez?
J'ai fait un tout petit peu de tirage photo argentique et j'ai essayé de travailler sur des photos sur un ordinateur. Ça me demande beaucoup plus de dextérité sur l'ordinateur que au moment du tirage. Le tirage, c'est du temps, c'est de l'observation, etc. Je n'ai pas la dextérité pour faire le travail sur l'ordinateur. J'ai pas les yeux pour, j'ai pas les mains pour. Et donc, il y a quelque chose de très différent pour moi.
C'est plutôt le contraire, parce qu'en fait, j'ai eu très très peu d'expérience de tirage argentique, comme tout petit peu quand j'étais gamine, mais vraiment, vraiment anecdotique. Et par contre, j'ai essayé d'apprendre à me servir un tout petit peu de choses comme Photoshop et tout ça. Ce qui m'amuse beaucoup, bien que je fasse ça de manière totalement amateur et pour mon plaisir, parce que j'ai toujours aimé les collages et que ça permet de faire des montages et des choses et de jouer et que c'est amusant. Mais c'est vraiment pour le plaisir, pour mon plaisir à moi, quoi. Ça va pas plus loin. Et c'est très, ça finit par être limité, et c'est très agaçant et frustrant parce que si j'avais le temps et tout ça, effectivement, j'apprendrais plus.
Au niveau de la technique, c'est compliqué pour moi. J'oscille entre le tout numérique, par exemple Freaks qui vient de sortir est un bouquin tout numérique qui reprend une esthétique plutôt rétro, voire même de plaques de verre de daguerreotype. C'est un boulot qui me demande... le shooting en tant que tech me prend une demi-journée pour rassembler une quinzaine de modèles et passer une après-midi à faire n'importe quoi avec des costumes, des maquillages, de l'éclairage ou non, un assistant ou non, enfin, on s'amuse comme on peut. Le temps de traitement d'une photo peut varier dans le numérique de 5 minutes à peu près 5 heures, voire même 5 semaines. Il faut se dire que le tirage en argentique, c'est une démarche totalement différente, même si on a des échos entre les deux. Le tirage en numérique, en argentique, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on fait une photo, le film garde l'image, on la révèle, on essaye de corriger le tir, on essaye vraiment de corriger le tir et de vraiment de s'adapter à ce qu'on veut, tout en sachant qu'on a une partie chimique qu'on ne maîtrise pas. On peut s'approprier l'élément chimique, mais on ne peut jamais le maîtriser parfaitement. Il y a trop de contraintes de température. Il y a aussi une question purement de chance. On peut avoir la photo parfaite, se dire qu'on a le temps d'exposition parfaite, n'importe quoi. Si un jour, il y a une poussière qui vient dans le bain et qu'elle se retrouve, on aura des trucs totalement bizarres. Ou très peu étanche, on va avoir des raies de lumière et donc, du coup, tout notre travail d'une journée est fini.
Moi, j'aime bien justement ça.
Moi aussi.
L'imperfection, la surprise, le...
Notre dernier labo photo qu'on a monté avec des potes, c'est dans un garage où on avait une prise électrique, on avait FIP en fond musical et on avait une eau qu'on ne pouvait pas trop faire chauffer. C'est-à-dire qu'on arrivait avec une bouilloire et on tentait, avec le thermomètre, d'avoir des bains constants, sachant que c'est totalement impossible et qu'accessoirement, on développait même en plein hiver sans chauffage. Ce qui laisse quand même des souvenirs de chambre noire assez particuliers. Mais c'est le retour aussi. L'argentique connaît un retour à la mode. Je vais faire un petit sondage parce que j'aime bien faire participer les gens. Est-ce que la marque Lomo vous parle? Oui. Il y a des fous qui sont américains de mémoire, qui ont racheté une usine qui s'appelait Lomo, qui faisait de la copie d'appareils, et qui ont racheté tous les brevets. Et à partir du moment où ils ont racheté les brevets avec les usines, ils reproduisent toutes les vieilles boîtes à savon que vos grands-parents ou arrière-grands-parents ont eu. C'est-à-dire ces appareils 6-6 en plastique avec le truc le plus cheap qu'on puisse avoir, mais qui fonctionne du tonnerre de Dieu. Et l'argentique revient à la mode, et les autres procédés aussi. C'est ce qu'on appelle la slow photo. Et par exemple, moi, je commence à m'inscrire dans un principe de slow photo. Là, je suis en train de... Est-ce que vous avez été au photocall? Il y a un photocall qui est installé à côté du bar où on peut se faire prendre en photo. Ce photocall met à la fois une esthétique totalement ancienne, c'est-à-dire que c'est une chambre photographique, mais à l'intérieur, ils ont triché, ils ont mis un réflexe. Parce que ça coûte quand même cher et que développer une plaque de verre en moins de 5 minutes...
Numérique, évidemment.
Numérique, oui. Mais là, je suis en train de construire ma propre chambre photographique sur mesure, avec des forums, avec des photographes slovènes totalement tarés qui font de la menuiserie et qui, accessoirement, nous disent comment construire ce qu'on appelle le soufflet, donc la partie entre l'objectif et cette plaque de verre. On a des Espagnols qui nous fournissent des plaques de verre sur mesure et des Anglais qui nous fournissent de la chimie... assez toxique.
En fait, c'est un peu comme Airbus.
Et c'est un phénomène. C'est pas qu'un phénomène de mode. C'est-à-dire que avoir sa photo, revenir à quelque chose de physique, un support physique sur lequel on peut poser ses souvenirs, qu'on peut afficher n'importe où, c'est pas la même chose que de prendre son téléphone, vous prendre en photo, se dire je les imprimerai plus tard, et on le fait jamais. qui a déjà imprimé à peu près 600 photos, qui a une moyenne de 600 photos par personne sur son disque dur, et est allé chez le tireur, puisqu'on n'est plus photographe maintenant, on est tireur quand on est dans un labo, mettre tout en, et tout ressortir. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui levait la main, mais je pense que vous n'êtes pas beaucoup plus d'une dizaine, à mon avis.
Et autre question subsidiaire, qui a eu son disque dur qui a craché et qui a perdu toutes ses photos?
Olivier?
Ah, vous êtes drôlement plus nombreux.
Olivier, juste à côté de toi.
J'ajouterais juste un truc à ce que tu dis, c'est que non seulement il y a ce retour à l'argentique, c'est ce retour qui est magnifique, mais il y a aussi ce retour à l'instantané avec le pseudo-polaroïd.
De vrais Polaroid. Voilà, Polaroid, oui. Vient de ressortir.
Voilà, mais je parle des appareils qui sont sortis un peu avant, qui ne sont pas de la marque Polaroid, mais qui étaient dans le même principe. Voilà, oui. Voilà. Et où on a à nouveau cet instantané où on peut immédiatement partager l'image papier, jouer dessus, écrire dessus, etc., avec les gens qui sont là.
Mais il y a un gros retour, le vintage était à la mode. Mais là, j'avais envie de faire un parallèle, puisqu'on est quand même aux utopiaques et on doit parler de science-fiction. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde de formica punk, comme dit Bouguet. C'est-à-dire que comme le vintage est à la mode, on revient aussi à ses pratiques. Et par exemple, dans le steampunk, ou dans des films qui ont un esthétique plus ou moins steampunk ou de début du siècle, par exemple, là, j'ai en tête Wonder Woman. Tout le monde a vu Wonder Woman dans la salle. Enfin, à un moment, elle se fait prendre en photo, il y a une plaque de verre qui apparaît, c'est le début du... Enfin, la plaque de verre en tant que telle, cet instant photographique est le début du film, en fait. C'est grâce à cette photo qu'elle se souvient de tout. Mais dans l'esthétique même, le steampunk, quand on voit des appareils, du coup, on revoit de l'argentique, on voit qu'on a toujours ce photographe qui se met sous son voile et qui...
Et y a d'ailleurs
il se cache.
Et il y a, oui, d'ailleurs un très beau livre de photos steampunk, qui est La France steampunk, oui, qui est chez les Indés de l'Imaginaire, oui, qui rassemble vraiment de très 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 belles photos d'esthétique. Et qui sont généralement des photos argentiques, d'ailleurs.
Je vais faire un petit parallèle, en fait, avec le cinéma de long métrage. Quand je regardais de nouveau Interstellar il y a 2 semaines, à un moment, j'ai fait une pause au bout de 5 minutes, me disant, mais le film n'est pas tourné en numérique. Pourtant, je regardais en plus une copie qui était pas une copie de salle, hein, donc déjà un peu compressée obligatoirement, parce que le DVD, de toute façon, est compressé. Et pourquoi ? Parce qu'en termes de colorimétrie et surtout en termes de rapport de contraste, en termes de dominantes qui peuvent arriver dans les basses lumières, et puis la façon dont la lumière joue dans les hautes, par contre, notamment avec les flares, etc., c'est quelque chose qui est assez difficile à avoir en numérique. Et du coup, j'ai fait une pause, je suis allé vérifier. Effectivement, il avait été tourné en 65, puisqu'en fait, format de tournage pour le 70 après ajout des 3 pistes son magnétiques de chaque côté, donc 6. Alors, il y a depuis quelques mois un débat à Hollywood. Je dis ça un peu pour casser l'ambiance, vous allez voir, c'est très rigolo. Il y a un grand débat depuis quelques mois. Il y a certains réalisateurs qui veulent absolument retourner au tournage en 35, alors que les caméras professionnelles numériques, les RED notamment, sont quand même particulièrement au point. C'est quand même du RAW 16 bits, évidemment non compressé, donc avec des capacités d'étalonnage qui sont largement supérieures à celles du 35. Dès qu'on veut faire des effets par-dessus, bah, c'est déjà numérisé puisque c'est déjà numérique, donc c'est beaucoup plus simple. Et de toute façon, au final, comme il n'y a plus de projecteur 35 dans les salles, mais un système de projection numérique par ce qu'on appelle le DCP, on a en plus un transfert de moins à faire, donc ce qui sous-entend théoriquement une perte de qualité en moins. Malgré cela, donc malgré le fait que le numérique soit infiniment plus pratique en termes de production, post-production et diffusion, il y a un certain nombre de réalisateurs dont, et puis alors pas des moindres, bon, Tarantino, d'ailleurs, de toute façon, Les Salopards, il l'a tourné en 65, là aussi, Spielberg et d'autres qui disent, ah non, mais bon, c'était mieux en 35. Alors, deux choses, soit ils sont très très nostalgiques, ça c'est l'adjectif poli, on est bien d'accord, soit ils le font pour en fait une raison particulière. Alors, il y a un certain nombre de raisons qui peuvent exister. Ceci dit, moi, j'ai travaillé avec des réalisateurs de cinéma qui n'aimaient pas monter en numérique parce que ça va trop vite. Alors que quand on a des rouleaux de pellicule qu'il faut couper, puis alors la chute, faut la numéroter, faut la mettre l'archiver à un endroit pour être sûr de pouvoir la retrouver quand on va vouloir rajouter trois images au plan, etc. Du coup, le monteur et généralement son assistant, parce que bon, tout seul c'est pas possible, prend du temps pour faire ça, et du coup, pendant ce temps-là, le réalisateur a son temps de réflexion, et finalement, il va plus vite. Et il ne fait pas 50 versions, ce qui est très facile avec des outils de montage numérique, mais il n'en fait qu'une, mais qu'il a pu vraiment réfléchir. Alors, il y a ça qui peut venir en ligne de compte, et puis à côté de ça, dans le débat Hollywood, il y avait Zemeckis, qui est quand même assez spécialiste depuis le début 80 des films à effets spéciaux, qui disait, mais vous êtes vraiment malade. Vous ne vous rendez pas compte comment, depuis, pour moi, c'est vachement plus pratique. Si vous voulez revenir au 35, libre à vous, mais franchement, sans moi. Et en fait, c'est très curieux, parce que ce n'est pas en fait, tout à fait rationnel. On le sent bien. Il y a un certain nombre de facteurs qui jouent là-dessus, et on a la même chose en photo.
Moi, je viens d'une famille de plasticiens. J'ai toujours vécu dans le milieu de l'art. Et ce à quoi ça me fait penser, par rapport à la photographie comme par rapport au cinéma, c'est l'imperfection et l'éphémère, c'est la surprise, c'est ce contre quoi on ne peut rien. Et il y a quelque chose au niveau de la création qui est très intéressant là-dedans, quand on n'a pas la maîtrise totale du médium ni du résultat.
Oui, et puis il y a un truc aussi, c'est que dans le processus, dans le laboratoire photographique, on a du temps, on réfléchit, on se retrouve quand même dans le noir. Je ne sais pas combien de personnes ici auraient pu tester. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé le labo photo et l'expérience d'être plongé dans le noir pendant le temps d'installation? Le temps.
Avec un petit peu de lumière inactinique.
Oui, mais quand tu dois mettre ton
film... Ah oui, quand tu mets ton film, oui, là,
ton
film tout à fait dans le noir, avec juste tes mains pleines de doigts.
Tes mains pleines de doigts, le fait de ne pas savoir si ton film est bien engagé, s'il est bien lisse et tout.
Et puis tu le refais juste parce que tu n'es pas sûr.
Et oui, et on se retrouve quand même dans des périodes de noir et de doute qui, pour moi, en tant que photographe, me font du bien. Juste dans la pratique, parce que si c'est juste pour trouver un moment décisif, appuyer sur le bouton et envoyer ça dans un labo pour voir ce que ça donne, il n'y a pas l'expérience, comme tu disais, du médium. Et sans l'expérience du médium, par exemple en numérique, moi, la seule expérience qui me fait plaisir, c'est d'aller chez mon imprimeur et de choisir un joli papier pour faire mes jolis tirages. C'est de pouvoir toucher quelque chose qui est physique aussi.
Ça a quelque chose à voir et pas, parce que c'est l'imperfection du médium, les trucs comme ça. Il y a longtemps, aux Utopiales, il y a eu une machine à photo qui était installée, qui venait de Suisse, et où en fait c'était une photo numérique hyper rapide, et où on demandait aux personnes qui entraient dans la boîte de se mettre en mouvement. Et ce qui en sortait, c'était une planche d'autocollant qui décomposait tout le mouvement qui avait été pris par la machine. Et on distribuait des petits carnets pour coller ces autocollants et en fait faire un flipbook, avoir reconstitué le mouvement à partir du mouvement entrecoupé.
De la pixelation, finalement, ce qu'on appelle en animation. Antoine, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de Freaks.
Tu veux que je sorte
mon... Sors ton Freaks.
Ah, oui, je sors.
Montre ton Freaks à tout le monde.
Hop.
Je fais démonstrateur du juste prix, non, mais
en collaboration. Alors, livre dont tu as réalisé les photos et dont les textes sont de.
J'ai une préface d'une certaine Sarah Doc qui est ici présente et un texte entre autres de Sylvie Denis, de Jeanna Debats et quelqu'un qui n'écrit très peu, qu'on connaît surtout pour son travail d'illustrateur, qui est Nicolas Fructus. Je ne sais pas si ça vous parle. Nicolas Fructus avait réalisé l'affiche des Utopiaques, je crois, en 2012, de mémoire 2011 ou 2012. Et c'est un grand passionné de plaques photographiques, de plaques de verre. Il possède une sacrée collection de plaques de verre qui, chez lui, dont il a basé un travail, dont on trouve certains clichés dans Gotland, justement, un de ses bouquins. Et Freaks, à la base, c'était... j'avais demandé à ce monsieur qui est avec ses grandes boxes. On avait un travail photographique avec deux ou trois autres photographes qui n'a jamais abouti. C'est-à-dire qu'on devait monter une petite revue et on devait faire... le concept, c'était de faire de l'abstrait, mais du figuratif en même temps. Enfin, on ne savait pas trop où on allait et j'avais une idée de... tiens, tu peux juste montrer la photo de préface. Parce que la photo de préface, c'est le départ du projet, en fait. C'était parti d'un projet, j'avais besoin... D'un clown en tutu avec une bouteille d'alcool qu'on voit pas ici parce que ça a été coupé, mais qui attendait quelque chose. Je sais pas pourquoi.
C'est un verre.
Bref, je sais pas du tout pourquoi j'ai eu cette idée-là. J'ai dû la scénariser, la scénographier. C'était peut-être la première fois que je scénographiais quelque chose de A à Z. On a commencé à bosser ça et puis le rendu était trop propre. Mais propre façon photo, type Vogue, type magazine de mode, papier glacé, à la limite des lumières d'un hôpital psychiatrique, selon moi. Enfin, c'est un peu la définition que je lui donnais. Et puis, à 3h du matin, j'avais toujours cette manque de plaques de verre numérisées en très haute définition, de plaques de métal scratchées, enfin, toute une banque de textures. Il faut savoir que c'est une bande de texture qui sert à un pote qui fait de la 3D, qui modélise pas mal de choses avec, et je me suis amusé à scratcher, à rajouter plein de textures pour arriver à un rendu un peu... si j'avais pas fait quelque chose qui s'appelait du daguerreotype, mais qui n'en est pas. Et au final, on a continué ce processus avec différentes personnes, jusqu'à, je crois que le dernier shooting, on devait être 16... En fait, réunir 16 personnes dans un jardin en plein été, sachant qu'on doit les costumer, les maquiller, qu'on doit les gérer aussi, parce que généralement, c'est une bande de potes que je prends en photo. Je suis un peu rétif de demander à des gens que je ne connais pas, qui sont modèles, de poser pour moi. Ce serait comme si je travaillais pour quelqu'un que je ne connais pas. Et ce n'est pas du tout ma pratique. Et au bout d'un an et demi, au bout de presque un an, un éditeur avec qui je travaille régulièrement m'a demandé m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien publier hors collection, d'en faire un bouquin photo. Sauf que le principe du bouquin photo, si c'est pour avoir 70 photos qui succèdent dans le même univers avec le même traitement graphique, je vais vous dire un truc, c'est chiant. Ça fonctionne bien sur 2-3 pages, les gens sont contents et tout, mais pour moi il n'y a aucun intérêt. Avoir des essais ou quelque chose qui part de l'art ou qui se regarde le nombril en parlant de ma pratique photographique, c'est pas trop mon truc non plus. Parce que je pars du principe que une photo n'a pas besoin forcément d'un appareil critique, comme je disais. Et accessoirement, j'ai l'art content pour rien, même si je caricature beaucoup, se gosse pas mal de ça. Et il se trouve que dans mes amis assez proches et dans les gens qui suivent mes travaux photographiques, il y avait Sarah, il y avait Sylvie, il y avait Nicolas et il y avait Jeanne. Et je leur ai dit, écoutez, moi j'ai envie de sortir un truc. Je vous donne quasiment l'intégralité des photos parce qu'il me manquait un shooting que je voulais vraiment faire qui s'appelle pour moi l'enterrement, qu'on peut retrouver...
Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu.
Bon, en gros, c'est des clowns qui portent une malle Et dedans, il y a une main qui sort d'une espèce de mague et c'est en fait un cercueil. C'était une façon de conclure mon projet photographique et de dire que Freak, c'était fini. Mais en gros, je graphiais l'intégralité des photos et de mémoire, je vous ai donné quasiment aucune contrainte à part « inspirez-vous des photos ». Et de fait, sont nés des textes sur lesquels je n'ai eu quasiment aucun contrôle, à part deux, trois petits trucs à la lecture, mais c'était un espace de liberté parce que je n'avais pas envie de créer un univers fixe, en fait. L'univers que j'ai développé par moi-même me reste propre ou reste propre entre la photo et le spectateur. Je n'avais pas envie de créer une bulle d'univers qui soit totalement scriptée comme on peut avoir dans certains autres bouquins qui sont géniaux par ailleurs, mais c'est voilà.
Un petit point aussi, puisque bon, les Utopiales, c'est un poil de la SF quand même. Oui, on va quand même. Hein, bon. Il y a dans un film de 1982 réalisé par Ridley Scott, vous voyez lequel, l'utilisation d'une photographie, vous avez dû voir quelques copies d'écran de Blade Runner, évidemment, qui sont passées. Il met la photo dans la machine qui est finalement une sorte de scanner et qui permet d'avoir avec une commande vocale des zooms, des effets de zoom de déplacement dans la photo. Alors, deux points que je trouve très intéressants dedans. D'abord, qu'est-ce qu'il met comme type de photo ? Du Polaroid. Donc en 82, en fait, Ridley Scott s'est dit le Polaroid existera encore à Los Angeles
en 2019.
C'est ça. Bon. Alors, il est vrai que d'un point de vue purement cinématographique, c'est quand même plus facile à montrer à l'écran que s'il se pointe avec une diapo ou même un tirage. Mais de toute façon, on imagine mal les réplicants en train d'aller faire tirer leurs photos personnelles chez un commerçant, sachant qu'ils sont vaguement hors la loi sur Terre. Hein. Bon, si on se rappelle le scénar. Bon, mais n'empêche que c'est vrai que le Polaroid, qui est un système finalement ancien, transporté dans un univers futuriste, c'est un truc visuel assez formidable dans le film. L'autre point, c'est que c'est quand même pas n'importe quel Polaroid. Et alors là, j'ai pas encore vraiment trouvé de brevet qui aille dans ce sens, mais que c'est que quand on zoome, on finit quand même par faire le tour des objets pour trouver l'indice qui va mener Rick Deckard vers le nouveau lieu d'investigation. Et ça, ça fait rêver.
C'est pas fou.
Peut-être avez-vous quelques questions à poser.
Bonjour. Je voulais faire remarquer, nous avons parlé de photographie. C'est d'abord un acte sémantique, la photographie, puisque c'est un message multiple. Donc ça, c'est à signaler. De même qu'une photographie, une pose peut prendre 10 jours, hein, s'il faut. Il y a des spécialistes qui s'amusent à photographier l'espace et autres avec des poses trédantes. Et je voulais faire remarquer que la photographie, je dirais, il y a 6 points fondamentaux. C'est d'abord un objet mathématique, puisqu'à l'heure actuelle, la photographie numérique, c'est 1000 opérations par pixel. Donc une image de 10 mégapixels, vous multipliez par 1000 et ça vous donne le nombre d'opérations mathématiques. Donc c'est une représentation totalement artificielle de la réalité. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est un objet sémantique avec une opinion, un document ou alors une émotion, une photo. Vous voyez que c'est varié. Et vous allez voir, vous allez comprendre la finalité de la chose. C'est un produit culturel. Alors sachez que le produit culturel de la photo, le grand décideur, c'est pas nous, c'est l'État, c'est le Code général des impôts qui fixe la norme avec le taux de TVA. C'est aussi surprenant.
Oui, on attend des questions.
Alors ma question est celle-ci. Justement, la science-fiction et la photographie, c'est la photographie biométrique, la reconnaissance faciale, les bases de données gigantesques, le big data, l'intelligence artificielle, parce que nous sommes tous photographiés en permanence par des caméras et maintenant tous suivis, fichés. Alors qu'en pensez-vous au niveau de la science-fiction ? Est-ce qu'il y a des films qui en parlent ou des écrivains qui ont abordé ce problème ?
Oui, non. Enfin, moi, ça ne me préoccupe pas plus que ça.
Il y a une nouvelle d'Ayordal dans une anthologie de la Volt qui en parle, parce que je n'ai plus le titre sur là maintenant, mais c'est une nouvelle sur la violence urbaine et l'éloignement des sans-abri, etc., et la, comment dire, la surveillance et la punition permanente. Mais
moi, j'ai un exemple en tête qui me revient, c'est Grange Mémoire de Robert Charles Wilson, qui en gros c'est un mercenaire ou un membre d'une société d'armement privé qui possède un cerveau dont un disque dur dans le cerveau qui filme, qui capte toute la vision qu'il a et qui justement se construit, se retrouve vidé de tout ça, mais redécouvre en visionnant les choses ce qu'il a vraiment vécu et sur le travestissement de l'image. Après, comme trucs qui font peur, je vais m'éloigner un peu de la science-fiction pour aller sur la 3D. Il y a 3 mois, sur un forum très 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 sérieux, il y a un modélisateur 3D français qui s'est reconstitué lui-même et qui a envoyé cette modélisation 3D à la préfecture, qui a accepté que ça soit sa photo d'identité.
Sinon, il y a ceci n'est pas un jeu de Walter John Williams, qui parle de serious game et de jeux virtuels, où justement l'internet, la photo biométrique, etc., interviennent dans la recherche et dans le travail des joueurs.
Je pense pas de toute façon que je pense que maintenant là, sur à peu près tous les domaines on pousse juste le potentiomètre un peu plus à droite dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la photo a toujours été, de toute façon, été utilisée comme un moyen d'identification. Je ne vais pas rappeler les heures noires des années 30 et 40. Ça a toujours permis en même temps de ficher. Parce que la photographie, depuis le début, s'oppose à la peinture qui est interprétation, alors que la photographie s'opposait comme témoignage plus que naturaliste. Et c'est ça qui a fait évoluer aussi la peinture par ailleurs, mais l'essence de reproduction de la réalité de la photographie a toujours été fascinante et objet de détournement.
Oui, enfin, on ne capture jamais le réel, on le construit.
Non, c'est une image.
Voilà, donc le réel n'existe pas, je crois qu'on est d'accord. Oui.
Une autre question ?
Question rapide.
Rapide ? Je souffle le ton.
Bonjour, je veux savoir vis-à-vis du diaporama qui passe depuis tout à l'heure, on voit des photos de grands noms de la photographie. Si un jour un photographe, qui soit un grand nom ou un photographe de métier pas nécessairement connu, vous a influencé ou provoqué un déclic dans votre rapport à la photographie ?
Alors ça, c'est pas rapide. Hein.
Non, ça peut être. Ça peut
la
être
question,
très
oui, mais.
Non, ça peut être très rapide. Moi, j'aime beaucoup ce que fait.
Mince.
J'ai oublié son prénom, mais il y a un très bon photographe qui travaille avec Tom Waits, qui est aussi réalisateur, qui a aussi fait des photos de David Bowie. Mais bref. Mais j'aime aussi tout ce qui est Willy Ronis,
Jim Jarmusch.
Non, pas Jim Jarmusch.
Non, mais c'était pas lui.
Non. Après, moi, je pourrais vous citer un photographe qui me passionne en ce moment, qui s'appelle Borut Peterlin. Il a un site qui s'appelle Top Sheet Photographie. Et c'est un mec qui est passé par tous les formats, tous les médiums. Et accessoirement, maintenant, il sort de quand même l'Académie royale d'Angleterre de photographie. Enfin, il a quand même un très bon niveau. Et il a décidé de construire sa chambre photographique et ne faire que des photos sur plaque de verre et des tirages à l'ancienne en carbone et tout le bordel. Mais le truc qui est très drôle, c'est qu'il fait ça en pleine nature, au milieu de nulle part, et selon ses critères, en communion avec la nature, ce qui peut paraître totalement paradoxal, avec son gros Land Rover en plein milieu de la forêt Scoven, mais il vous apprend très bien à faire la photographie, et en plus, il en rit énormément.
Moi, je ne vais pas citer un photographe, je vais citer un film. où il y a une photo et où beaucoup de choses tournent autour d'une photo, c'est Under Fire. C'est donc un film avec Nick Nolte et Trintignant qui met en scène un correspondant de guerre qui, à un moment donné, renonce à son métier et accepte de faire un faux. Et le faux, c'est une photo qui montre un homme qui est recherché, qui est mort, et qui est mis en scène sur cette photo pour faire croire qu'il est toujours vivant.
Je vais continuer avec une obsession qu'on partage avec Antoine, et donc ça sera Mick Rock, parce qu'il a pu tout photographier tellement de fois Bowie à certaines époques les plus intéressantes que... Mais bon, c'est mon obsession personnelle. On est heureux, voilà.
Bon, allez, normalement, le modérateur ne doit pas intervenir, mais bon, je vais quand même... Je vais donner mon choix, allez. Philippe Halsman. Bien, merci beaucoup pour avoir assisté à cette table ronde. Merci.